Et j'imagine que vous, ça ne vous aura pas échappé. Nous entrons bientôt dans le cinquième mois de guerre depuis l'attaque terroriste et du massacre du Hamas en Israël. Nous faisons donc un bilan militaire, diplomatique, mais également sur le terrain de l'information. Et ce, avec Daniel Haber, notre géopolitologue maison. On écoute son avis au micro, comme chaque fois, de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Haber.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce lundi matin. Comme chaque lundi matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale et depuis le 7 octobre, principalement de la situation en Israël. Daniel Haber, on entre dans le cinquième mois de guerre. L'occasion pour nous de faire un bilan global avec vous. Pour commencer, on va faire un bilan militaire.
Alors Israël, militairement, fait face à un ennemi qui est l'Iran et qui appuie sur plusieurs boutons. Au total de tous ces boutons, le principal ennemi, ça reste le Hamas, par son attaque du 7 octobre et parce que c'est une menace directe sur Israël depuis 15 ans. Je rappelle quand même que le Hamas n'est pas seulement au Gaza, il est déjà présent en Judée-Samarie, en Cisjordanie, et on va en reparler. Les autres ennemis, disons un mot rapidement, le Hezbollah n'interviendra pas plus qu'il intervient aujourd'hui parce que c'est pas son intérêt. Et dans cet aspect, je voudrais quand même rappeler que les Américains ont, par l'envoi de leur flotte puissante près du Liban, ont dissuadé le Hezbollah d'attaquer, mais ils ont aussi dissuadé Israël de profiter de la situation pour attaquer le Hezbollah, ce qui est quand même un des rêves de Tsahal, parce que après la guerre contre le Hamas, qui va être gagnée, je vais en parler dans un instant, il restera cette menace encore pire du Hezbollah. Sur les Houthis, disons simplement que les Houthis ne menacent plus seulement Israël, mais au fond l'ensemble du monde entier, du commerce mondial, et en particulier les deux grandes puissances, États-Unis et Chine, qui ont pour leurs intérêts commerciaux une priorité absolue, et on a entendu déjà la Chine commencer à faire pression sur l'Iran pour dire à ses amis houthis d'arrêter la grande compagnie de transport chinoise Costco fait des appels pour qu'on puisse reprendre la navigation normale dans la mer Rouge et dans le canal de Suez. Alors sur le Hamas, disons que la guerre évidemment à Gaza est déjà gagnée, c'est pas le problème. La question c'est quelle sera l'ampleur de la victoire. Elle sera, je pense, hélas limité parce que avec les otages, le Hamas compte bien conserver un noyau dur de son organisation. Elle quittera Gaza, ça c'est sûr. Donc l'objectif d'Israël, qui est d'empêcher le Hamas de nuire au pays à partir de Gaza, sera obtenu. Mais elle ira ailleurs et probablement en Judée-Samarie, ce qui posera évidemment d'autres problèmes et nous invitera à en parler à nouveau. Et puis la victoire, elle sera amère parce qu'elle nous aura coûté très très cher. Juste un mot sur la Judée-Samarie. Ça fait un an que les meilleures troupes israéliennes sont en train de prévenir toutes les attaques terroristes. L'idée selon laquelle on avait dégarni le front de Gaza pour aller protéger quelques colonies illégales en Cisjordanie, tout ça c'est de la conte de fées. C'est que à Jenin, à Naplouse et dans les camps de réfugiés, il y a des nids de terroristes du Hamas et d'autres milices pro-iraniennes qu'il faut détruire autant qu'il faut détruire le Hamas à Gaza.
Daniel Haber, cette guerre aussi, et on en parle souvent dans Conversation, c'est une guerre de communication.
Et hélas, Israël a perdu grande bataille, hein, la première offensive de cette guerre de communication a été menée par l'islamisme mondial, probablement orchestré par les frères musulmans. Le succès de cette guerre de communication anti-israélienne vient du fait que les islamistes ont trouvé des relais, les ONG humanitaires, l'ONU, les médias de gauche qui dominent la scène mondiale, de la BBC au journal Le Monde, et puis une partie de l'opinion occidentale, ce qu'on appelle nous les islamo-gauchistes, les extrémistes de gauche alliés à l'islam, qui sont les ennemis d'eux-mêmes, les ennemis de l'Occident. Et donc tout ça s'est traduit par une accumulation de fake news absolument ahurissant. Et je vous propose que dans une prochaine conversation, on fasse un petit peu la liste de ces fake news qui ont accablé évidemment l'image d'Israël. Mais il y a deux éléments qui qui semble montrer que peut-être tout ça va s'arrêter, peut-être se retourner contre les auteurs. La première, c'est la décision de la Cour pénale internationale face à la demande de l'ONU, de l'Afrique du Sud, pardon, qui a décidé de ne pas demander un cessez-le-feu immédiat, ce qui reconnaît qu'Israël ne commet pas de génocide. Donc c'est une vraie victoire d'Israël, quoique les journaux de gauche essaient de traduire en défaite. C'est une vraie victoire, et même surprenante d'ailleurs. Je pense qu'on a été agréablement surpris. L'autre, c'est la révélation que cet office des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, est un nid de terroristes. On le savait, nous, depuis longtemps. Ça commence à être reconnu même au niveau de l'ONU, et je pense que c'est le début de la fin de cette organisation qui a fait plus de mal que de bien et qui fera partie, je pense, de la négociation future. Donc voilà, une défaite de la guerre de communication, mais peut-être un redressement à prévoir.
Daniel Hébert, en un petit peu moins de 5 minutes, nous avons encore 2 points à aborder. Premièrement, la politique intérieure israélienne depuis le début de cette guerre et la politique internationale.
Écoutez, pour la politique intérieure, on peut dire que les citoyens israéliens ont fait la preuve d'une formidable solidarité, d'une formidable unité. La classe politique, évidemment, pas de même. Elle est moins civique, et puis surtout, elle prépare l'après-guerre, l'après-Bibi dans leur rêve. Ce qu'on peut dire, c'est que l'élément qui avait beaucoup divisé la société israélienne, qui est les réformes sur la Cour suprême, aujourd'hui sont mises à mal par les faits. La Cour suprême a elle-même supprimé cette réforme qui s'appelait la fin de la clause de raisonnabilité. Elle est maintenue, et il n'y a pas eu de réaction du gouvernement de Netanyahou. Et puis l'homme qui avait transformé cette Cour suprême en gouvernement des juges, et qui était l'ennemi numéro un de Bibi, le juge Barak, est devenu l'homme, au contraire, qui a défendu Israël en tant que juge à la Cour pénale internationale. Donc on peut dire que lorsque les affaires politiques reprendront en Israël, elle reprendra probablement dans une situation beaucoup plus assainie. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer.
Et au niveau international?
Alors, ce qu'on peut dire, parce que c'est si on jette un regard global, il n'y a pas de pression aujourd'hui venant de grandes puissances mondiales sur Israël pour modifier sa stratégie de guerre contre, d'opération militaire contre le Hamas. La Russie fait le travail minimum de protection de son ami syrien, parce qu'ils ont des intérêts là-bas, mais pas plus. L'Union européenne est beaucoup trop divisée et noyée dans ses contradictions, donc elle est inaudible et absente. Et ce qui est très intéressant, c'est la position chinoise. On en parlait la semaine dernière. Elle veut éviter toute implication au conflit. Elle reste très neutre. Donc finalement, il n'y reste plus que les Américains. Et on s'aperçoit que les Américains, finalement, soutiennent Israël, malgré quelques tentatives de pression, mais qui sont plutôt destinées au marché américain en cette période électorale. Il y a un homme quand même qui apparaît comme le vrai ami d'Israël, parce que il a les idées claires, c'est Jake Sullivan. Voilà l'homme à suivre. Il n'est pas juif, il est indépendant. C'est peut-être le prochain Kissinger. Et il voit clair. Et je voudrais appeler nos auditeurs à relire ce qu'il vient de définir comme les 4 principes d'un éventuel État palestinien. Ces principes préalables d'une solution à 2 États sont tout à fait acceptables, auraient pu être d'ailleurs définis par Israël elle-même, et été définis. Donc je dirais que du côté américain, le soutien demeure, et donc ça veut dire que l'année 2024 va continuer comme elle a commencé. C'est une année de transition. On va vers la fin des opérations militaires, je pense, à Gaza. Après, une autre phase commencera, qui est la destruction des infrastructures, des tunnels, une fois que la solution des otages sera réglée par un deal fait avec le Hamas. Ce que Israël veut absolument éviter, c'est un retour et du Hamas ou toute autre organisation terroriste à Gaza. Donc ça prend aura toute l'année 2024. On attend évidemment le retour des négociations entre Israël et l'Arabie Saoudite parce que c'est la clé de tout. C'est l'extension à l'Arabie Saoudite de ce qu'on appelle les accords d'Abraham. Et c'est peut-être à l'intérieur de ces accords d'Abraham élargis qu'on pourra trouver une solution à cette fameuse solution à deux États, mais qui sera évidemment très restrictive sur le plan de la souveraineté de cet État. Et donc, on peut dire que, si on voulait conclure, que l'Iran, qui pour l'instant semble avoir gagné une bataille, n'a pas encore gagné la guerre.
Daniel Habert, nous aurons évidemment l'occasion de revenir sur ces différents sujets dans nos prochaines conversations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka ce matin et on se retrouve la semaine prochaine.
À bientôt.